parmi les procédés que ce prédicateur qui nous obsède et que j'appelle par commodité l'auteur du sermon d'Amiens, parmi les procédés qu'il utilise pour introduire une connivence entre lui et son auditoire dans les moments où il ne l'intimide pas ou ne le menace pas, en alternant les deux, eh bien, nous avons relevé le fait qu'il cite le refrain d'une chanson très connue à son époque, une chanson du trouvère arageois Guillaume Levigné. Et nous avons vu que le prédicateur détourne le sens de ce refrain de façon à l'appliquer non pas... Donc le refrain est « Bonne est la douleur dont il naît douceur, consolation et joie » et qu'il cite sous la forme « Bonne est la douleur dont j'attends douceur, consolation et joie » et il détourne ce refrain de manière à l'appliquer non pas à la souffrance de l'amant frustré qui attend sa récompense, mais à celle de l'âme au purgatoire qui attend la joie du paradis. Et nous avons vu que c'est pour cela, à mon avis, qu'il introduit cette légère modification, non pas « bonne est la douleur dont il naît douceur », mais « bonne est la douleur dont j'attends douceur », parce que la douceur du paradis ne naît pas de la souffrance du purgatoire, sinon ceux qui vont tout droit au paradis ne l'éprouveraient pas. En revanche, on attend au purgatoire la douceur du paradis. Et il manifeste ainsi, par son attention aux détails du texte, une précision et un scrupule théologique qui montre que le prédicateur cabotin et démagogue sous les traits duquel il se présente est probablement un rôle de composition. Mais le fait même qu'il cite et qu'il utilise dans son sermon le refrain d'une chanson française, d'une chanson à la mode, d'une chanson à danser, nous a conduit à nous intéresser à d'autres sermons qui ne se contentent pas de citer une chanson en langue vulgaire, mais qui la prennent pour thème du sermon. Donc le thème est, je le rappelle, la citation scripturaire à partir de laquelle le sermon est construit, à partir de laquelle il développe son argumentation et son idée à travers le commentaire, l'exégèse qu'il en fait. Donc ces sermons prennent pour thème un rondeau à danser en langue vulgaire et ils en font une exégèse allégorique en détournant cette chanson d'amour vers un sens spirituel. Et à ma connaissance, peut-être y en a-t-il d'autres que j'ignore, mais à ma connaissance, trois sermons prennent pour thème un rondeau à danser, deux sermons latins et un sermon, si on préfère, un traité édifiant ou un sermon en vers français. La dernière fois, comme je ne sais jamais m'organiser et que je m'arrête toujours au milieu d'un développement, la dernière fois, nous avions lu le premier de ces sermons latins qui prend pour thème une version du plus répandu des rondeaux de danse à son époque, le XIIIe siècle, le rondeau de la Belle Aélis, qui raconte toujours la même chose. La Belle Aélis se lève le matin et elle fait sa toilette et se fait belle pour aller danser. Et je vous remets à nouveau sous les yeux le texte de ce sermon. Donc voilà le début, enfin il est sur deux diapositives, enfin, je sais plus, on appelle probablement plus ça des diapositives, enfin, je ne sais pas. Et voilà. Donc, nous avions lu le premier de ces sermons latins, celui sur la Belle Aélis, et nous avons vu qu'après avoir défini les caractéristiques de la danse et les avoir appliquées aux qualités exigées du prédicateur, ce prédicateur s'applique à montrer que chaque vers de ce rondeau, qui décrit donc la toilette matinale de la Belle Aélis avant qu'elle aille danser, ce rondeau dont le refrain chasse de la danse ceux qui ne sont pas amoureux, « Par Dieu, traillez-vous-en là qui n'a même mis, au nom de Dieu, allez-vous-en, vous qui n'êtes pas amoureux », eh bien, ce rondeau, il l'applique à la Vierge Marie. Et donc, l'intention, je reprends le début de mon commentaire, encore une fois, ça se chevauche, je suis mal organisé, enfin, tout ce que vous voulez. Et l'intention du sermon est, dans sa première phrase, De omni verbo otioso redituris sumus deo rationem in die judici, nous devrons rendre compte à Dieu de toute parole oiseuse au jour du jugement. Donc, quelles paroles sont plus oiseuses, donc, je vous montre à la fin du sermon pour ceux qui n'ont pas le texte sous les yeux, quelles paroles sont plus oiseuses que celle d'un rondeau de danse, et celui-ci est tellement connu qu'il suffit au prédicateur de nommer la belle Aélis et de le citer pour que chacun comprenne qu'il s'agit de danse. Alors, vous voyez, cum dico bella Aélis, scitis quod tripudium, etc. Quand je dis bella Aélis, vous savez bien que la danse à trois temps, tripudium, est comme ceci et comme cela. Quelle occupation plus frivole, dit ensuite le prédicateur, que la danse. Et cette occupation, nous avions noté qu'il la connaît pourtant très bien, il la définit, il est un des rares textes que nous connaissons à mentionner le rythme et la mesure, contenu à vrai dire, justement dans ce terme de tripudium, danse à trois temps, strepidus pedum, concordance, voci, le frappement des pieds en harmonie avec la voix. Et la citation qui vient dans le corps du sermon, « Ce est la belle Aélis, qui est la flore et l'hélice », vient d'une autre version du rondeau de la belle Aélis, donc ces différentes versions du même rondeau qu'on alternait, qu'on mélangeait, qu'on chantait en dansant, se prestent à l'esprit. Donc, ce qu'il propose, c'est donc chose d'absolument classique, c'est un détournement du texte, une pieuse récupération du rondeau à danser. C'est une opération bien très fréquente, bien connue, sous la forme de la transformation d'une chanson profane en chanson pieuse par la substitution d'un texte religieux au texte d'origine. Ça s'est fait bien au-delà du Moyen-Âge, et c'était une façon de conjurer des chansons pas convenables en leur superposant un texte pieux. D'ailleurs, l'inverse se pratiquait aussi, comme vous savez. C'est donc un contrafactum. Presque toutes les chansons à la Vierge de cette époque sont faites sur le modèle des chansons d'amour profanes, dont elles reprennent le style et les expressions. Gautier de Coincy, par exemple, dont nous avons beaucoup parlé, si certains ici s'en souviennent, à d'autres années, qui mêle à ces miracles de la Vierge, qui sont des récits en vers, des miracles de la Vierge, qui mêlent des chansons ou qui terminent chaque livre par des chansons. Gautier de Coincy est particulièrement habile à cet exercice. On évoque d'ailleurs le lever matinal d'une jeune femme qui s'apprête non pour la danse, mais pour la prière, dans certains textes récupérés de cette façon. Par exemple, cette chanson que citait Pierre Beck, « La béguine main », il faut ajouter « au matin », d'ailleurs ça correspond aux chansons de ce genre, puis sinon on le verrait faux, « La béguine main s'est levée, de vêture bien parée, au moutier s'en est allé, Jésus-Christ va regrettant, Ave Maria, j'aime tant ». Regrettant ne veut pas dire vraiment regretter, mais désirer avec force. Et sur le modèle des nombreuses chansons de rencontres amoureuses, dont les pastourelles et les chansons de la mal mariée sont des types particuliers, mais les types les plus fréquents et les moins convenables, si je puis dire, une chanson qu'on a longtemps attribué à Saint-Louis lui-même, montre le poète rencontrant au matin dans un verger, non pas une jeune fille, non pas une bergère, non pas une femme qui se plaint de son mari, non pas une nonne insatisfaite comme dans plusieurs chansons, mais la Vierge Marie. Et cette chanson est bilingue, alternativement un vers en français, un vers en latin, pour bien montrer qu'on est dans le registre sacré. Et cette chanson, je l'ai en tête, je pourrais même la chanter ou en chanter des bouts, mais il me manque l'incipit et j'étais incapable de la retrouver. Je vous garantis qu'elle existe. Ça n'a d'ailleurs aucune importance. Alors, notre sermon pratique cette récupération, mais chez lui, la récupération prend une autre forme. Elle prend celle du commentaire. Ce changement dans le rapport du texte à ce qu'il y a autour du texte que nous avions vu, mutatis mutandis, enfin beaucoup mutata et beaucoup mutanda, lorsque nous avions parlé un temps et longuement des rasos, des chansons des troubadours. Et j'avais dit à ce moment-là, je vais montrer si je peux le dire, à ce moment-là que ces rasos qui nous paraissent, qui historiquement et biographiquement n'ont pas grand intérêt, ont l'intérêt d'être des commentaires du poème sous la forme d'un récit. Elle nous déconcerte parce que pour nous, le commentaire du poème, c'est une analyse abstraite, c'est une explication de texte. Et là, c'est un récit qu'on invente à partir du poème qu'il éclaire. Et bien là, il y a, enfin non pas le même genre, mais un autre type de récupération inhabituelle par rapport à ce qui se pratique ailleurs, celle du commentaire. La méthode de l'exégèse allégorique qui découvre, en s'appuyant sur des citations scripturaires, en enchaînant les citations scripturaires, un sens second derrière le sens littéral, cette méthode permet de trouver un sens édifiant, même au plus célèbre, au plus emblématique des rondeaux à danser, en l'appliquant à la Sainte Vierge. Et le sermon, alors ce qui est frappant pour nous, c'est que ce sermon, vous l'avez sous les yeux, nous l'avons lu la dernière fois, ce sermon est parfaitement sérieux. Pas de dérision, pas d'effet comique fondé sur la distance entre le poème et son interprétation religieuse. Rien qui se ressemble à ce que seront à la fin du Moyen-Âge les sermons joyeux. Parodie ou pastiche de sermons détourné dans un sens inconvenant ou scatologique ou ce que vous voulez. Et ce sermon, notre sermon, là, contient même des prises de position théologiques sur des sujets controversés. Le commentaire de « Main sans leva »,« Elle s'est levée de bon matin », c'est, vous en souvenez, vous l'avez sous les yeux, que Marie a été sanctifiée dès le ventre de sa mère. Et cela montre que le prédicateur prend position en faveur de l'Immaculée Conception. Or, cette question de l'Immaculée Conception, savoir si la Vierge a été dispensée en somme du péché originel, si elle était conçue sans la marque du péché originel, est une question extrêmement débattue au Moyen-Âge, et très violemment, parce qu'il y a un fort courant en faveur de l'Immaculée Conception, mais la grande autorité théologique et très vite canonisée de l'époque, saint Thomas d'Aquin, est contre l'Immaculée Conception, il n'est pas contre la Sainte Vierge, mais enfin, il considère qu'il n'y a aucune raison théologique de considérer qu'elle est dispensée du péché originel et qu'au contraire, cela nuit à la profondeur, si on veut dire, de l'incarnation. Et le débat a été si vif, d'autant plus que les dominicains qui avaient entre leurs mains l'Inquisition, etc., pesaient d'un poids très lourd ensuite sur l'orthodoxie. Le débat a été si vif qu'il a fallu, vous le savez, attendre le milieu du XIXe siècle pour que on proclame, que le pape proclame le dogme de l'Immaculée Conception. Et c'est comme ça que la petite Bernadette Soubiroul savait, on ne sait pas comment, et c'est comme ça qu'on a su que c'était la Sainte Vierge. Donc lui, d'autres prédicateurs, est pour, si je puis dire, l'Immaculée Conception, et il trouve moyen de le dire dans ce sermon qui, pour nous, paraît dérisoire. Ce sermon qui commente une chanson populaire et une chanson de danse populaire. Voilà. Donc, avec ce sermon, on est plutôt, là encore, Mutatis Mutandis, et s'agissant au départ d'un rondeau à danser, on est plutôt dans le registre des commentaires du Cantique des Cantiques, qui nourrissent la méditation, la prédication, la littérature spirituelle à partir d'Origène et pendant tout le Moyen-Âge, ce Cantique des Cantiques, poème d'amour, inlassablement interprété comme un poème de l'amour mystique. Et d'ailleurs, vous avez vu que le prédicateur ne cesse de citer le Cantique des Cantiques à l'appui de son développement. Il est donc parfaitement conscient de ce qu'il fait et du parallèle des situations. Il traite le rondeau de la Bella Elis comme un Cantique des Cantiques moderne. Mais cela ne l'empêche pas d'être conscient de son audace. Son sermon n'est pas fait pour être mis entre toutes les mains. Il pourrait choquer. Il pourrait être mal interprété. D'ailleurs, c'est un sermon en latin. Et il ne s'adresse pas aux fidèles, mais à ses confrères prédicateurs. Et voyez les conseils qu'il donne, debemus habere, etc. Vocem sonoram id est predicationem sanctam Deo placentem et hominibus. Opera concordantia nostre predicationi ad imitationem Christi, quid cepit facere et postea docere. Nous devons avoir une voix sonore, c'est-à-dire une prédication sainte qui plaise à Dieu et aux hommes. Nous devons avoir des œuvres en harmonie, en concordance avec notre prédication, à l'imitation du Christ, qui a commencé par faire et ensuite seulement s'est mis à enseigner. Et le second sermon, sur la rive de la mer, qui est construit sur le modèle du premier et qui est certainement du même auteur, non seulement parce que il est fait pareil, mais parce qu'on trouve dans les deux cette expression « prava in bonum exponere », qui n'est pas extraordinaire, mais enfin qui n'est pas une expression si fréquente. Eh bien, le sermon, enfin sur la rive de la mer, c'est-à-dire le sermon qui commente le rondeau sur la rive de la mer, l'autre sermon latin qui prend un rondeau comme thème, ce sermon, donc exactement construit comme le premier, du certainement même auteur, dit dès le début « nos clerice », nous les clercs. Et parmi les manuscrits qui ont conservé le sermon de la Bella Elis, je vous avais dit, enfin ce n'est pas une importance capitale pour nous, que le sermon de la Bella Elis est conservé par plusieurs manuscrits, 6 il me semble, ce qui est beaucoup. Et le sermon sur la rive de la mer par un seul. Mais dans le sermon qui conserve sur la rive de la mer conserve les deux manuscrits, le manuscrit qui conserve le sermon sur la rive de la mer contient les deux sermons, Bella Elis et sur la rive de la mer, à la suite l'un de l'autre, et à la fin du manuscrit. Et ce manuscrit, le manuscrit 97 de la Bibliothèque municipale de Poitiers, est un manuscrit de sermon français, qui contient l'homiliaire français de Maurice de Sully, dont nous avons parlé l'année dernière, augmenté de quelques autres sermons français anonyme, donc, mais attribué aussi à Maurice de Sully. Enfin, donc, c'est l'homilière de Maurice de Sully, l'homilière français, des sermons français au peuple, des recueils qui servent à cette époque de dormis et courets, de sermons modèles pour les prédicateurs qui n'ont qu'à ensuite les réciter, n'ont pas à préparer ensemble leurs propres sermons. Et à la fin, il y a ces deux sermons latins avec pour thème un rondeau français. Ils ne font pas partie de la série, mais on voit très bien à quoi ils servent dans ce recueil de sermons modèles. Ils sont là pour le bénéfice et peut-être pour la détente du prédicateur qui utilise les sermons français pour sa propre prédication. C'est les jeux à la fin du manuel d'exercice. Et ce sermon, comme le sermon sur la rive de la mer, sont des jeux de clercs. C'est comme ça que je les avais rappelé autrefois. Ce n'est pas par hasard que ces sermons sur des rondeaux français sont en latin. Ce sont des exercices de virtuosité où l'auteur, par lesquels l'auteur veut montrer qu'il maîtrise assez bien la technique du sermon pour pouvoir prendre pour thème n'importe quel texte, aussi profane soit-il, et en tirer un sens spirituel et moral par des rapprochements avec des citations d'écriture ou par des jeux étymologiques sur le français comme sur le latin. C'est un exercice de virtuosité. Je suis un si bon étudiant, j'ai si bien appris ces méthodes scolastiques, ces méthodes universitaires, ces méthodes de l'exégèse, que je suis capable de vous faire un sermon sur la Sainte Vierge à partir de n'importe quoi, même le rondeau de la Bella Elis. Mais, donc ce sont des jeux, mais ces jeux de clercs sont, si je puis dire, des jeux sérieux. Il n'y a aucune trace de provocation dans l'irrévérence. Il n'y a aucune trace de dérision. Vous l'avez vu, nous l'avons vu en lisant ce sermon. Et c'est cela, finalement, qui nous déroute dans ces sermons. Ce seraient des sermons qui se moque. Ce serait un sermon de Charlie Hebdo, ça nous serait familier. Ce serait un sermon sérieux, ça nous serait familier. Mais là, c'est un jeu, mais un jeu sérieux. Et c'est une attitude si éloignée de nos habitudes que nous avons du mal à la saisir et à la définir. D'une façon générale, c'est une banalité. Rien n'est plus difficile à comprendre dans une civilisation ou dans une époque éloignée des nôtres que tout ce qui touche au rire, de tout ce qui est prise de distance, humour, rire, second degré. Des choses, c'est toujours difficile à comprendre parce que c'est quelque chose qui suppose la connivence. C'est quelque chose qu'on fait entre soi. Même à l'intérieur, dans la même civilisation, dans le même lieu, il y a dans un petit cercle étroit des plaisanteries qui font rire aux larmes et qui laissent le reste du monde totalement indifférent. Alors, à 8 ou 9 siècles de différence, ou à l'autre bout du monde, pensez donc. D'ailleurs, on en voit les conséquences tous les jours. Pour notre époque, et dans la civilisation occidentale, aujourd'hui, en 2016, l'obéissance et le respect sont des faiblesses et non pas des vertus. L'irrévérence est salutaire et libératrice. Et de plus, pour être libératrice, elle doit être destructrice de ce à quoi elle s'en prend. D'autres époques et d'autres civilisations ont eu ou ont encore une conception et une pratique différentes de l'humour irrévérencieux. La distance qu'il instaure ne tend pas dans ces cas-là, à la destruction ni même à la déstabilisation de l'objet qu'il vise. Et tout au contraire, quelquefois, la liberté qu'il se permet est le gage d'une adhésion plus réfléchie et plus profonde. Et voyez, dans le monde clérical, là, depuis toujours, mais encore il n'y a pas si longtemps, peut-être encore aujourd'hui, ce type d'humour fait de critique des prélats et des grands de l'Église, de plaisanterie sur l'aspect extérieur ou quotidien ou banal de la vie intérieure, spirituelle, sacramentelle même. Eh bien, tout cela a toujours existé, tout cela a traversé les siècles. C'est de l'humour de curé, ça se trouve partout, parfois même des plaisanteries inconvenantes. Dans Pierre Larousse, vous le savez, était extrêmement anticlérical. Eh bien, dans le petit Larousse qui était chez moi dans mon enfance, je le sais parce que j'étais allé regarder le mot. Eh bien, à scatologique, il y avait comme exemple, comme si un exemple était nécessaire et comme si cet exemple éclairait le mot, les moines aiment les plaisanteries scatologiques. Et c'était un petit Larousse du début du XXe siècle, je ne sais pas comment, un vieux petit Larousse très bien. Bon, encore une fois, c'est un type d'humour qui a toujours existé, qui a traversé les siècles. Il existe toujours un peu, mais c'est un type d'humour qui a mal vieilli parce que notre époque y voit précisément une forme trop révérencieuse d'irrévérence. Et vous avez lu Le royaume d'Emmanuel Carrère, vous avez pu noter qu'au début, dans l'immense chapitre initial et autobiographique à un point parfois gênant, eh bien, il dit qu'il voulait faire une croisière biblique et qu'il y a renoncé au dernier moment et qu'il a perdu le prix de son billet parce qu'il n'avait pas le courage d'affronter l'atmosphère qui régnerait dans cette croisière. Et puis, dit-il, l'humour des prêtres. Alors, affronter l'humour des prêtres, non, ce n'était pas possible. Il a préféré renoncer. Eh bien, c'était cela. Alors, il me semble que, une fois de plus, je dis des bêtises, mais il me semble que ces sermons latins sur des rondeaux à danser, des rondeaux d'amour, des rondeaux qui invitent généralement, ou très souvent, à un amour illicite, eh bien, ces sermons à l'usage des prédicateurs eux-mêmes, ces sermons à usage interne, relèvent de ce type d'humour. Bien sûr, ce sont des plaisanteries. Bien sûr, ils voient ce qu'il y a de transgressif à assimiler la Bella Elis à la Sainte Vierge, ou dans le sermon sur la rive de la mer, j'en dirai un mot dans un instant, d'assimiler une dame mal mariée en quête de satisfaction amoureuse à Sainte Marie-Madeleine. Mais l'éloge de la Vierge ou de la Sainte, cet éloge que leur virtuosité d'exégète leur permet finalement de tirer de ces rondeaux immoraux, cet éloge n'est pas lui-même irrévérencieux. Ils le prennent au sérieux, et d'autant plus en sérieux qu'ils reviennent de loin, qu'ils l'ont tiré de zones dangereuses, cet éloge. Alors vous me direz, et les simples dans tout cela, les simples qui nous intéressent. Les simples sont oubliés, le rondeau n'est pas pour eux. Mais le sermon n'est pas pour eux. Les simples sont oubliés, le sermon n'est pas pour eux. Mais ce sont eux qui fournissent le rondeau, qui fournissent la matière du sermon. Ou tout au moins, le rondon appartient à leur monde, à leur culture, à leur vie de tous les jours, à leur divertissement. Ils le savent, ils sont capables de le chanter mieux que ne le fait le prédicateur, qui le cite d'ailleurs probablement avec des erreurs, qui oublie le refrain inséré, qui le cite sous une forme qui rend difficile la danse, etc. Et pour une fois, l'échange culturel est inversé. C'est le poème des simples qui devient sujet d'instruction et de méditation. Encore une fois, c'est un jeu. Encore une fois, c'est un jeu sérieux. Et j'insiste sur cette expression « jeu sérieux » parce que ceux qui me sont fidèles depuis longtemps savent que la formule n'est pas de moi, elle est de Saint Bernard. Certains se rappellent peut-être que dans la célèbre lettre de Saint Bernard à Augier de Mont-Saint-Éloi, où il dit que les chrétiens et les moines particulièrement, enfin ceux qui vivent de Dieu et ceux qui affichent le fait qu'ils vivent de Dieu, sont comme des jongleurs dont le monde se moque, mais qui jouent de telle façon que le monde se moque d'eux. Mais c'est un jeu sérieux, c'est un beau jeu sérieux qui plaît à Dieu et aux anges, et il parle à ce moment-là de David qui danse nu devant l'arche et sa femme, Michol, se moque de lui. Eh bien, Michol, c'est le monde, et les moines doivent être comme ces jongleurs et comme David, parce que les moines ont des valeurs qui sont inverses de celles du monde. Ce que le monde juge ridicule, stupide, blâmable, eux le jugent admirable et vice-versa. Ils sont comme des jongleurs qui marchent sur les mains, les pieds en l'air. Ils sont à l'inverse du monde. Voilà, c'est ce que dit ce passage. Je rappelle encore, après l'avoir, je crois, cité trop souvent, qui mérite même d'être cité, de la lettre de Saint Bernard à Augier de Mont-Saint-Éloi. Donc, encore une fois, je reviens à mes rondeaux, c'est un jeu sérieux. Mais ce jeu sérieux n'est envisageable que parce que ces prédicateurs, ces exégètes, sont rompus à l'exercice qui consiste à tirer d'un texte simple, en apparence limpide, en apparence éloigné de ce qu'ils vont en dire, une signification complexe et loin de son sens littéral. Videamus quid sit istud, quod quasi frivolum reputatur. Voyons ce qu'est ceci que l'on juge frivole, dit le sermon sur la rive de la mer, à propos justement de ce vers, le premier vers du sermon, du rondeau, le premier vers du rondeau sur la rive de la mer. Qu'est-ce que ça signifie, cette parole qui a l'air frivole ? Exercice intellectuel, mais aussi conviction d'une religion qui enseigne que la sagesse est cachée en ceux que l'on croit simples et que la sagesse est cachée dans les mots les plus simples. Alors, c'est beaucoup prêté tout de même à ces chansons de danse dont, au fil de leurs variantes, les refrains invitent ouvertement à la sensualité. Par ici passe, libre, par ici passe le brun, le beau Robin, par ici passe Robin Liamorou, encore en elle l'herbage plus doux. Ces refrains qui invitent si souvent à l'adultère, non pas mince, bien, leva la bienfaite Alice, beau se paraît plus belle se vêtit, dormez jaloux, je vous en prie, pour caroler en mai, dormez jaloux, je vous en prie, et je m'envoiserai, et je m'amuserai. Celui que j'avais cité là dans mes petites émissions, souffrez, Marie, et si ne vous ennuie, demain marée, et mes amis ennuient. Prenez votre mal en patience, mon mari, et vous m'aurez demain, et mon ami cette nuit. Je vous défends d'en dire un seul mot, prenez votre mal en patience, mon mari, et sans bouger. La nuit est courte, au matin vous m'aurez, quand mon ami aura pris son plaisir. Prenez votre mal en patience, mon mari, vous m'aurez demain et mon ami cette nuit. Normalement. Eh bien, voilà le genre de littérature. Voilà ce qui venait à l'esprit de quiconque entendait Anne Serrondeau. Tous les autres se pressaient. Nous savons que tous les autres se pressaient parce que dans les romans comme dans la Guillaume de Dol ou qui en cite un certain nombre, eh bien on voit qu'on les mélange, qu'on met le refrain de l'un dans la strophe de l'autre, etc. Ils viennent tous à la fois. On voit qu'ils se pressent à l'esprit. Celui-ci n'était à peine terminé qu'une dame en a commencé un autre, etc. Alors, ce jeu de clercs est admissible entre clercs. Mais lorsque le rondeau de la belle Aélis est commenté non pour eux, mais pour le bénéfice des simples fidèles, directement, quand on le cite directement pour les simples fidèles, comme le prédicateur d'Amiens le fait de la chanson de Guillaume Le Vignier, n'est-ce pas ? À ce moment-là, c'est, si j'ose dire, une autre chanson. Et on le voit une fois, et on voit bien la différence. Jacques de Vitry, vous savez, l'an dernier, nous avions parlé du prologue des Sermones Vulgares, Velat Status, de Jacques de Vitry, qu'on commence à pouvoir lire commodément grâce au premier tome paru de l'admirable édition du Père Longère. Eh bien, Jacques de Vitry utilise le sermon de la Bella Aélis dans un exemplum. Vous savez qu'il y a un très grand nombre d'exemplats dans ces sermons et que pendant longtemps, ces sermons n'ont été intéressés que pour les exemplats qu'ils contenaient. Et cet exemplum dit, et Tony Hunt ne manque pas de le citer dans son bel article où il édite les deux sermons, ces deux sermons à thème de Rondeau, là, Bella Aélis est sur la rive de la mer, que moi j'avais étudié longuement autrefois dans ma thèse, mais sans édition, à partir des manuscrits. Donc cet exemplum dit ceci, la sœur de Saint Bernard s'est approchée un jour d'un groupe de moines, cum pompa magna et ornatu superfluo, avec une pompe magnifique et une toilette superflue. Et les moines, loin d'être admiratifs ou impressionnés, ont jugé qu'elle était ridicule. Et du coup, elle a renoncé à soigner et à embellir son corps pour ne plus s'occuper que de son âme. Elle s'est faite religieuse. Tel est l'exemplum. Et au moment où Jacques de Vitry l'a décrit se présentant devant les moines dans l'éclat de sa toilette, il écrit ceci que je dois avoir. Uius modi autem mulieres, quando ad publicum exire velitiam ire debent, magnam diei partem in apparatus uo consumunt. Quand Aélis fut levée et quand elle fut lavée, et la messe fut chantée, et des diables l'ont emportée. Quod est, quando Aélis delecto surexit, et lota fuit, et in speculo aspexit, et vestita et ornata fuit, iam truces ad processionem tulerant, et missam cantaverant, et demones eam tulerunt, qui comites eius fuerunt. Alors, je ne sais pas si j'ai oublié un bout, en se recopiant un bout du rondeau, ou si, effectivement, il ne cite pas tout, il en traduit plus qu'il n'y en a dans le texte. Enfin, je suis désolé, j'aurais dit, ça me frappe maintenant. Donc, de la même façon, quand les femmes doivent sortir en public ou simplement marcher dans la rue, elles passent une grande partie de la journée à se préparer. Quand Aélis fut levée et quand elle fut lavée, et la messe fut chantée, et diable l'ont emportée, variante pieuse. Ce qui veut dire, le temps qu'Aélis se lève de son lit, se lave, se contemple dans le miroir, s'habille et se pomponne, on avait déjà fait la procession en portant les reliquaires, on avait déjà chanté la messe, et les diables, ses compagnons, l'ont emporté. Alors, justement, ce bout de phrase ajouté par, Jacques de Vitry, j'en suis pas très sûr. Bon, c'est pas dans le volume, enfin, c'est pas encore dans l'édition Longère. J'avoue que j'ai pas eu le temps, j'ai fait ça trop tard, je me suis pas reporté au manuscrit. Et dans la version telle qu'elle est éditée par Tony Hunt, il y a Iam truces ad processionem tulerant. Et j'avoue que je ne vois pas ce que ça veut dire de porter des sauvages, puis en plus c'est un adjectif, enfin on ne trouve pas substantivé, en procession. Et je propose, mais je le fais à mes risques et périls, et la philologie en entière va me tomber dessus et m'écraser de son poids, là, je propose de lire plutôt trucas. Truca est un mot attesté par Ducange qui désigne une boîte, quelquefois un ossuaire, et d'ailleurs c'est la même chose, souvent un reliquaire. Et donc, qu'il y ait avant la messe une procession avec les reliques, puis la messe, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Enfin, je vous dis cela en tremblant. Bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, dans la version de la Bella Elie citée par Jacques de Vitry, le poème est modifié pour le rendre édifiant. C'est une variante du rondeau, mais une variante dans laquelle elle ne fait pas sa toilette pour aller danser, et elle ne va pas danser ensuite, mais elle passe tellement de temps à sa toilette, donc c'est une variante misogyne, les femmes, c'est bien connu, passent toujours un temps infini à leur toilette avant de sortir, elle passe tellement de temps à sa toilette qu'elle manque la messe et que les diables, ses compagnons, l'emportent. Dans le sermon, le rondeau est conservé, dans le sermon d'Abélaïdis, le rondeau est conservé, tel qu'il sert pour la danse, mais le sens en est changé. Dans l'exemplum, c'est le rondeau qui est modifié, de façon que la leçon s'applique au vice qu'encourage l'évocation complaisante de la belle à sa toilette. Moins sophistiqué, cet exemplum est moins sophistiqué que le sermon. Il est plus explicite, il est plus direct, il est porteur d'une morale simple et concrète et non pas de rapprochement scripturaire recherché et, il faut bien dire, extraordinairement tiré par les cheveux dans leur virtuosité. C'est donc le sermon, c'est donc l'exemplum et lui seul qui s'adresse au simple. Oui, l'exemplum, l'anecdote qu'on insère dans le sermon pour le rendre vivant s'adresse au simple, mais pas le sermon. Alors, je ne vais pas, après vous avoir infligé le sermon de la Bella Elis, lire le sermon intégralement, le sermon sur la rive de la mer, dont le principe est le même. J'en cite tout de même, des extraits, ou plutôt, la totalité, c'est-à-dire que je vais d'un bout à l'autre, mais avec de larges coupures. Il est plus long que le sermon de la Bella Elis, pour qu'on en voie le mouvement et le sens. Je le cite parce que, probablement qu'il a été composé ensuite. On compose d'abord un sermon sur la Bella Elis, parce que c'est le rondeau le plus connu, etc. Et tout content de lui, l'auteur a dû récidiver. Là. Et il renchérit, il pousse le jeu encore plus loin et son sermon est encore plus caricatural dans la science pédante, l'éloquence pompeuse et la piété confite appliquée à un poème dont le refrain encourage à l'adultère. Et tout cela, toujours, avec un sérieux parfait. Il y a quelque chose qui va... Excusez-moi, hein, il y a quelque chose qui ne va pas dans mes... je vous lis uniquement. D'abord, certains d'entre vous, et j'espère tous, l'ont sous les yeux, et je vous lis uniquement la traduction. Voilà. donc je lis tout de même en ancien français le rondeau. Sur la rive de la mer, Fontenelle y sort d'éclair, la pucelle y veut aller, Violette est trouvée, je douai bien congé d'amée, dame m'au marié. Sur la rive, donc, sur la rive de la mer, une fontaine y sort d'éclair, la jeune fille veut y aller, une violette j'ai trouvée, j'ai trouvé une violette, et je vous donne bien la permission d'aimer, dame mal mariée. Cela, c'est, nous verrons, l'interprétation du sermon. On pourrait comprendre « je donne bien la permission d'aimer une dame mal mariée », s'adressant à l'homme qui veut aimer une dame mal mariée. Mais le sermon comprend, enfin, comme, il n'y a pas de ponctuation à l'époque, comme s'il y avait une virgule et comme si c'était une apostrophe. « Je donne bien la permission d'aimer, je vous donne bien la permission d'aimer ». Vous, dame, qui êtes mal mariée. Et alors, le sermon commence ainsi. Puis, encore une fois, avec plein de coupures. Puisque, comme le philosophe l'atteste, la science est un trésor caché qui n'est pas divulgué, nous, les clercs, à qui il est permis de savoir selon la parole, à vous, il est permis de connaître le mystère du royaume de Dieu, aux autres, en revanche, seulement dans des paraboles. Donc c'est Luc 8, 10. Nous devons enrichir les Hébreux et spolier les Égyptiens en travaillant à tourner vers le bien ce qui est mauvais. Toujours cette expression, prava in bonum exponere. Nous, donc, confiants dans la grâce de Dieu, nous souvenons de l'autorité avec laquelle il est dit « Ouvre ta bouche et je la remplirai », nous voulons considérer ce qu'est ceci sur la rive de la mer. Bon, et puis, j'en saute. Alors, oui, je reviens, mais enfin, vous là, enfin, non, là encore, vous avez reconnu, je fais comme si vous étiez moi ou comme si depuis 22 ans tout le monde suivait ce cours. Nous devons enrichir les Hébreux et spolier les Égyptiens. C'est une allusion au livre de l'Exode, Exode 12, 35-36, où au moment de l'Exode, Dieu encourage d'ailleurs les Hébreux qui s'en vont à voler les Égyptiens avant de partir, à leur prendre leurs bijoux, etc. Bon. Et ce passage a été utilisé par saint Augustin pour justifier l'étude de la littérature, de la philosophie, de la science païenne classique. Vous savez qu'à cette époque, la question se pose et est tranchée différemment selon les auteurs chrétiens, de savoir s'il faut rejeter toute la culture païenne ou si il faut la conserver. Et elle a été conservée, enfin heureusement pour nous, c'est comme ça que nous la connaissons, hein, grâce surtout à saint Jérôme et à saint Augustin, presque au même moment. Saint Jérôme, dans une lettre, prend une autre comparaison qui vient du livre, plus c'est le Nombre ou le Lévitique, où il y a des instructions sur la façon dont il faut traiter une esclave captive, une prise de guerre, en somme. Une esclave qui est une prise de guerre. Et le texte dit, l'Hébreu qui a une telle captive peut en faire sa femme, à condition de lui couper les ongles et de la raser entièrement, les cheveux et le reste. Et à ce moment-là, il peut en faire sa femme. Et saint Jérôme dit, eh bien de même, en débarrassant les lettres païennes et la science païenne de tout ce qui est inadmissible, en la rasant, hein, nous pouvons l'adopter. Et à peu près au même moment, quelques années plus tard, enfin je ne sais plus dans quel ordre, saint Augustin, lui, prend ce passage de l'Exode et dit de même que les Hébreux ont été autorisés à spolier les Égyptiens de leurs bijoux, les chrétiens doivent spolier les païens des bijoux des lettres antiques et en faire leur profit. Et les lettres antiques deviennent une sorte, sont utilisées comme une sorte d'apprentissage, de gamme, de propédeutique pour ensuite l'étude de la science de Dieu. Voilà. Et c'est, ça a donc autorisé Saint Augustin savait de quoi il parlait, puisque c'était un ancien professeur de lettres. Et il ne voulait pas renoncer à ce qui était si beau. Et c'est ainsi que nous connaissons cette littérature, puisque, enfin, comme vous le savez, nous ne connaissons pas, mettons, la littérature latine par les quelques papyries qui se courent après, mais par des manuscrits. Et les manuscrits, et ces manuscrits ont été copiés tout au long du Moyen Âge. L'étape suivante, c'est quand Cassiodore, une fois que il y avait une règle monastique, d'abord la règle du maître, puis la règle de Benoît. Donc les moines devaient partager leur temps entre travail manuel, travail intellectuel et prière. Cassiodore a dit que bon, qu'est-ce qu'on peut faire comme travail intellectuel? Eh bien, copier des textes, y compris des textes de la littérature païenne, antique, est une œuvre intellectuelle profitable. Et c'est comme ça que nous connaissons cette littérature. Si vous avez allé à la section latine de l'Institut de recherche et d'histoire des textes, vous voyez qu'on travaille sur des manuscrits du Moyen Âge, mais sur des manuscrits du Moyen Âge de textes antiques. Enfin, je m'égare, mais j'avais longuement parlé de cela autrefois à la fin des années 90, dans la série de cours de Poésie et Conversion, Prophète et Prophète, qui a donné le livre Poésie et Conversion. Enfin, pardon, je m'égare, mais enfin, c'est un sujet qui est réellement... c'est quelque chose qui est extrêmement important, qui a changé le visage de notre civilisation. Cette histoire des dépouilles des Égyptiens et de la spoliation des Égyptiens. Mais vous voyez, nous allons en rester là pour ne pas nous en... Là. Une fois de plus, que je vous lise trop rapidement ces sermons et puis ensuite nous repoussions le commentaire à la semaine suivante. Mais vous voyez dès maintenant comment le prédicateur voit ce rondeau qu'il cite, qu'il commente. Ce rondeau qu'il commente est à ce que doit être le thème d'un sermon, ce que la littérature païenne est au monde du christianisme. C'est autre chose. C'est quelque chose qu'on devrait, en fait, repousser. Mais si on a l'intelligence et l'intelligence que donne Dieu de toutes choses, eh bien, on voit qu'on peut même de ce rondeau tirer quelque chose et tirer quelque chose d'édifiant et de formateur, de même que même de la littérature païenne, on peut tirer de quoi former l'esprit. Mais nous nous formerons l'esprit sur ce point la semaine prochaine en lisant la suite, enfin au moins ce que nous en lirons du rondeau sur la rive de la mer. Et je vous remercie. Et...